Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, que vous avez profité du beau temps. En tout cas, cette semaine, ça risque d'être une semaine aussi de beau temps absolument exceptionnel. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un petit nuage gris au-dessus de ma tête en ce magnifique lundi. Quand je lis dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, que le fameux anneau, vous savez, l'anneau à 5 millions de dollars qui va trôner au centre-ville de Montréal, où on nous disait ben ça va être vraiment le symbole de la fierté de Montréal, de la fierté du Québec. Les gens vont venir de partout à travers le monde pour venir observer ce fameux anneau, cette œuvre d'art qui va trôner au centre-ville, devant la place Ville-Marie. Ben, on apprend dans le journal que même s'il a été créé par l'architecte Claude Cormier, qui est donc bel et bien québécois, que l'essentiel de cette pièce-là a été transformé en territoire américain, toi et chose. Hein? Ils l'ont l'affaire, les Américains, comme disait l'autre. Ben, c'est un peu particulier quand même, parce que depuis le début, chaque fois qu'on soulève des doutes face à ce fameux anneau quand même très coûteux, on nous dit « Non, vous en faites pas, c'est une fierté locale, les gens vont venir, les gens vont... ça va être une destination, je veux bien. » Mais si vous en faites une question de fierté nationale ou de fierté locale, au moins, est-ce qu'on peut s'assurer que la patente en question soit fabriquée ici? C'est quand même le minimum. Alors quand j'ai appris cette information-là, grâce à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai posé un estomaqué. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
Ouais, ça c'est Johnny Hallyday qui chante Les portes du pénitencier. Pour la majorité des gens, hein, la seule expérience qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur des murs d'une prison, d'un centre de détention, ben c'est des chansons, c'est des séries à la télé comme Unité 9, ou c'est des films. Mais quand on l'a vécu de l'intérieur et qu'on en témoigne, ben la réalité est beaucoup plus sombre et beaucoup moins, disons, romantique que une certaine fiction peut nous le laisser entendre. En fin de semaine, j'ai lu un livre qui m'a vraiment donné froid dans le dos. Ça s'intitule « Délivrez-nous de la prison Leclerc ». C'est écrit par Louise Henry, qui, elle, a été incarcérée pendant 11 mois dans cette prison pour femmes à Laval. Et c'est une lecture très difficile parce qu'elle y décrit dans les moindres détails, les conditions de détention absolument épouvantables dans ce centre-là. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Henry.
Ben, bonjour à vous, madame.
Il y a beaucoup de gens, la seule image qu'ils ont de ce qui se passe dans une prison pour femmes, c'est Unité 9, qui était une excellente série à la télé. Mais quand on lit votre livre, on se rend compte que à la prison Leclerc, en tout cas, c'est absolument épouvantable, c'est pas chauffé l'hiver, pas climatisé l'été, de la nourriture infecte, des conditions sanitaires inacceptables, même pas d'eau potable. On a l'impression que vous nous décrivez, Madame Henry, une prison dans un pays du tiers-monde.
C'est bien valant, puis c'est vrai, c'est ça qui est le pire. Puis faut pas être surpris, hein, parce que cette prison-là, elle a été fermée pour les hommes. L'ancien premier ministre Harper a fermé l'établissement parce qu'elle était vétuste. Donc, elle était plus bonne, là. Il n'y avait plus rien à faire avec. Mais avec des micmacs de gouvernement fédéral provincial, les hommes s'en sont sortis, puis c'est nous autres, les femmes, qui sont là, et sans avoir eu de rénovation ou de réparation, si on veut, là. Absolument rien, sauf des acclimatisés dans les bureaux des agents, là, dans les CU qu'on appelle.
Ouais.
Les chefs d'unité. Il n'y a rien qui a été arrangé. Fait que déjà qu'on voulait la fermer, parce qu'elle était vétuste, mais là, on met les femmes parce qu'on ne sait pas d'où les mettre, parce qu'on est un petit nombre, puis parce qu'on ne chiale pas, nous autres.
Ah, ça, c'est très intéressant ce que vous amenez là, parce que, en effet, c'est une réalité qui est complètement délirante, là, effet, cette prison-là, où la plomberie est défectueuse, où, tu sais, il y a des fissures dans les murs qui fait que les détenus doivent dormir en plein hiver avec leurs manteaux, leurs bottes, leurs tuques, leurs mitaines. Ce sont des conditions inacceptables. Donc, ça avait été fermé pour les hommes, mais ça a été réouvert pour les femmes. Déjà, à sa face même, ça n'a pas de sens. Madame Henry, vous, vous le cachez pas, hein, dans le livre, vous en parlez clairement. Vous vous êtes retrouvée en prison parce que, comme comptable, vous avez été trouvée coupable de fraude et de malversation financière. Donc, vous ne vous en cachez pas. Mais ce que vous dites, c'est que si on a commis des fautes, l'ampleur de la punition est démesurée par rapport aux fautes commises. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y a des gens qui vont vous répondre, comme l'a fait la vice-première ministre, Mme Guilbeault? Ben, il faut toujours bien les punir, ces gens-là. Il ne faut pas que les conditions soient trop clémentes quand même en prison.
Ben, c'est une question que j'aimerais poser beaucoup à la sous-ministre, justement. Est-ce que la punition va jusqu'au fait qu'on va te donner, on ne te donnera pas les soins adéquats, puis quand tu vas sortir de là, on va t'amputer un bras? Parce que c'est ça qui est arrivé à une détenue. Est-ce que ça vaut la peine, la punition, parce que tu as des problèmes, des troubles mentaux, puis que tu te retrouves, parce qu'il y en a plusieurs, sur environ 150-200 femmes, tu en as à peu près 40-45 qui ont des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent à un moment donné, qui font des psychoses et qui s'enlèvent la vie? Ou arrête la punition? Oui, on doit être incarcéré. Oui, on doit être remanié, revoir à notre réinsertion sociale, chose qu'ils ne font pas, en plus de ça, là-bas. Ils ont pas, en plus, le personnel adéquat au niveau des agents. Ils sont habitués avec des hommes qui étaient à sécurité maximale. Imaginez-vous avec des femmes qui pleurent parce qu'elles n'est pas capable de parler à son enfant. Si elle pleure trop, ils se mettent à 6 puis ils la mettent au trou. Ça n'a aucun sens de faire vivre ça une femme. Si c'était des hommes qui vivaient présentement dans la prison, le clan, il y aurait eu une émeute, vous ne pouvez pas savoir. Parce que là, ça commence avec le manque d'effectifs au niveau des agents. Ça commence à brasser dans les prisons d'hommes aussi, là. Faut pas se leurrer. Eux autres, ils attendront pas qu'il y en ait qui se suicident, qu'il y en ait qui se mutilent, qui fassent des psychoses, qui aient pas de soins. Tu sais, quand t'as pas de pilules, ça fait 20 ans que je prends des pilules pour mon cholestérol. Ça a pris 10 jours avant que je les aille. C'est pas normal. On a le droit, on a des droits fondamentaux. Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce que je peux être traitée en tant qu'être humain et non comme déchet de la société? Parce que il y a pas grand monde qui a patte blanche. Hein? On est tous un peu, je dirais pas criminels, c'est pas vrai, mais on déroge toujours un peu tout le monde. Mais il s'agit de l'accepter puis de vouloir changer.
Oui, mais ça,
mais
je
pas obligé.
Oui, c'est ça. Après, la question de est-ce qu'il y a des... Pourquoi il y a des individus qui se retrouvent en prison et pas d'autres, ce serait un autre débat, Madame Henry. Mais concentrons-nous sur, à partir du moment où quelqu'un, en effet, se retrouve en prison, ce que vous décrivez, les conditions, c'est un matelas minuscule, dans certains cas, même pas d'oreiller, l'eau qui est... qu'il faut laisser couler plusieurs minutes parce que c'est un espèce de truc visqueux brun. Donc l'eau n'est pas potable, la nourriture est
les
absolument
drosophiles.
Oui, c'est ça.
Les petites mouches, ça c'est épouvantable. C'est par milliers que tu peux avoir ça. Mais la réponse à ça, c'est que vous faites de la baboche. Je pense pas que ma sœur Marguerite fait de la baboche dans la chapelle, puis il y en a des petites bébêtes là aussi.
Oui, c'est quoi de la baboche, Madame Henry? Faire de la baboche, ça veut dire quoi?
C'est de la baboche, ça se trouve être de l'alcool frelaté avec du jus, de la fermentation qu'ils font.
D'accord.
Les prisonniers font ça. C'est parce que c'est ça qu'on nous donne comme réponse. Non, on en met des rénovations. Non, on en met. C'est pas vrai. Il y en a pas eu. Il y a même pas eu. Sœur Marguerite me disait, celle qui s'occupe des femmes, quand ils ont fait le tour, toutes les bénévoles de l'Eucharistie, si tu veux, quand ils ont fait le tour des cellules avant que les femmes rentrent en 2016, il y avait des peintures très explicites sexuellement, puis c'était les hommes qui l'avaient fait, puis il n'y a pas personne qui a lavé mur, là.
C'est ben, voyons donc.
Qui sont rentrés, qui ont fait, oui, qui ont fait le ménage. Pauvre vous, au quatrième étage, les hommes, quand ils sont partis, ont laissé les fenêtres ouvertes. C'était un dépotoir à pigeons.
Non, c'est vraiment la façon dont vous le décrivez. Ouais, la façon dont vous le décrivez, c'est vraiment vétuste et inacceptable. Mais oui. Il y a aussi d'autres choses qui est le comportement à l'égard des prisonnières, des fouilles à nu. Constamment, dès que vous sortez pour aller, mettons, au palais de justice pour le déroulement de votre procès, que vous revenez fouille à nu, le recours abusif à l'isolement. Parlez-nous un peu de ça quand des prisonnières sont envoyées au trou. Moi, je pensais que ça se faisait plus ou que ça se faisait de façon exceptionnelle. Ce que vous décrivez dans le livre, c'est tout autre chose.
C'est souvent. C'est comme les fouilles à nu abusives, ça en devient des agressions sexuelles. C'est pas des farces, on est marqué de ça. Tu ressens de là t'es on te parle tellement en langage cru, on te parle tellement c'est ça, il y a une façon de faire une fouille à nu, je pense. Puis je suis allée au fédéral aussi. Au fédéral, savez-vous qu'ils font des fouilles à nu moitié. Autrement dit, t'enlèves le haut, tu remets le haut. T'enlèves le bas, tu remets le bas. Mais là-bas, le clan, c'est fouille à nu excessif, puis écarte les fesses, et écarte les lèvres. Je parle pas de ceux d'en haut, là.
Oui. En c'est même temps, pour faire l'avocat du diable... Oui, c'est ça, c'est pour voir s'il n'y a pas quelque chose. En même temps, si on a justement un tampon...
Quand tu reviens du palais de justice, comment veux-tu, tu es toujours menotte liée aux pieds et aux mains? Comment veux-tu, t'es toujours avec des agents, t'insérer quoi que ce soit, ça te fait pas. Ouais. Même encore là, il y a une façon de faire.
Ouais, il y a un élément qui moi m'a beaucoup troublé dans votre livre, c'est quand vous décrivez quelque chose qui est vraiment quand même un droit fondamental, c'est-à-dire le droit à la santé. À quel point l'accès à l'infirmerie est limité. Vous détaillez à un moment donné toutes les demandes de différentes personnes qui sont incarcérées et qui demandent à avoir soit des médicaments ou un traitement ou un examen médical La fin de non-recevoir est quand même assez frappante. Et ça me fait penser à quelque chose, Madame Henry. Régulièrement, quand on parle, par exemple, de la façon dont sont traités les aînés, on entend souvent ça, dire ben, « il serait mieux d'être en prison, il serait mieux traité en prison que dans un CHSLD ». Vous acceptez pas cette phrase-là quand on dit ça, là?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas au Leclerc, en tout cas. J'ai pas fait d'autres prisons que le Leclerc et le fédéral. Je peux vous dire pas au Leclerc. C'est de vouloir faire mourir nos personnes âgées. Non, pas au Leclerc. Surtout au niveau médicaments, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse au ministère de la Sécurité publique? Ah, c'est pas notre département, c'est le ministère de la Santé. Voyons donc. C'est pas une réponse, ça. C'est eux autres qui doivent nous donner les soins. C'est à eux autres à vérifier. C'est comme ils disent, non, mais on a le protecteur du citoyen pour pour nous surveiller, si vous voulez, pour qu'on ait tous les soins. À l'Assemblée nationale du 6 mai de l'année passée, imaginez-vous donc que le ministère de la Sécurité publique a demandé à protection du citoyen d'y aller et ont décliné l'invitation, apparemment. Quelques jours plus tard, il y a eu un suicide.
Vous parlez beaucoup des suicides qui ont eu lieu à la prison Leclerc. Il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont peut-être qui peuvent sembler plus anecdotiques, mais à quel point c'est difficile, par exemple, d'avoir accès à un téléphone pour parler à des proches. On a l'impression que c'est un petit peu de la torture psychologique. Ce serait pas compliqué quand même qu'il y ait différentes salles avec un accès gratuit à des téléphones. Il me semble que c'est un petit peu la base. Ne serait-ce que pour appeler un avocat.
C'est ça. Ben, puis le pire dans tout ça, c'est dans les premiers moments de ton arrivée que tu as besoin de soutien psychologique, tu as besoin de savoir, de parler à un avocat, de parler à ta famille. Quand on est mère, où est-ce qu'ils sont nos enfants, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a un tourbillon alentour de nous. Ça prend 10 jours pour avoir une carte d'appel. Puis tu as le droit à un appel si l'agent a le temps, parce que c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Sont rares ceux qui ont le droit de passer. Oui, c'est vrai, sur papier, oui, les agents donnent un appel par personne. Oui, mais ça, c'est sur papier. En fait, ils donnent pas, ils n'ont pas le temps. Mm. Ils n'ont pas le temps. Ils se courent après à queue, puis c'est de finir le chiffre au plus vite. Parce qu'ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils sont en manque d'effectifs, parce que le tout tombe en ruine, parce que c'est plainte par-dessus plainte. Et ce n'est pas la même chose travailler avec des criminels masculins et des criminels féminines. C'est pas la même chose.
Qu'est-ce qui est différent?
C'est complètement différent. C'est tout simplement dans notre comportement, on est différente. Nous, on n'ira pas à la barricade, à se battre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est émotive, on va pleurer. On demande plus de on a mal au ventre, on a mal à la tête, on est dans notre semaine, on chicane pour des riens, on a des, les hommes, là, c'est pas comme ça. Les hommes, ça marche droit, puis à un moment donné, quand c'est tanné, c'est bang. Ça vient de finir.
Mais en même temps. Ouais, en même temps, Madame Henry, il faut pas non plus tomber dans l'angélisme. La raison pour laquelle les femmes se retrouvent en prison, vous, c'était un crime économique. Je veux dire, moi, je serais pas d'accord non plus de vivre dans une société où on traite les femmes plus doucement parce que c'est des femmes. Non. À un moment donné, vous avez commis un crime, vous payez votre dette à la société aussi. Je veux juste terminer avec une question, Madame Henry. Vous avez écrit ce livre, donc « Délivrez-nous de la prison Leclerc » que j'ai lu en fin de semaine. Le but de ce livre, c'est quoi? C'est de s'adresser au public, de s'adresser aux politiciens, de s'adresser aux gestionnaires de la prison Leclerc. C'est quoi le but?
Première des choses, c'est le public, parce que les au niveau politique, ils sont au courant, ça fait belle lurette. Et la direction est au courant aussi. Il faut que les femmes sortent de là. Je ne demande pas ce qu'ils soient sortis, qui est le plan, ce qu'ils ont besoin. Les personnes qui ont des problèmes mentaux, ils n'ont pas d'affaires là. Voyons donc, c'est des problèmes mentaux de léger à sévère. Les femmes qui ont... La plupart, ça vient des milieux défavorisés, marginalisés. Ils ont des dépendances à l'alcool, à la drogue. Oui, on doit les aider. On doit les aider. Mais c'est sûr qu'ils ont une sentence à faire. Je l'ai fait, ma sentence. Et moi, je remercie l'établissement de Joliette qui, elle, on arrive là, on est pris en main, programme par-dessus programme. On trempe dedans solide. J'ai braillé ma vie à Joliette, mais ils nous ramènent à la réalité. Ils nous font voir qu'est-ce qu'on a fait. Puis c'est là que tu vois, ça n'a pas d'allure là, de vivre ce qu'on a vécu au Leclerc pendant des mois et des mois, puis que ça peut t'amener à... Moi, là, j'étais la prochaine qui se suicidait. Là, j'y ai pensé fortement. J'ai dit, il faut que je sorte d'ici, sinon je vais me pendre. Ça n'a plus d'allure, je ne peux plus, j'étais plus capable d'endurer cette souffrance-là, de débider, de que ce soit les fouilles à nu, la vermine pendant 10 jours, qu'il n'y a pas personne qui osait rentrer dans notre aile parce qu'il y avait de la vermine de morte en dessous des frigidaires.
Ah, oh, c'est dégueulasse, et vous le décrivez très bien dans le livre. Madame Henry, on va se quitter là-dessus. J'invite, pour la suite de l'histoire, j'invite tout le monde à lire ce livre-là, « Délivrez-nous de la prison Leclerc », en espérant que votre message va être entendu aussi bien auprès de la population qu'auprès des autorités, et que quelque chose va se passer, et qu'au moins, on va s'assurer que les conditions de détention soient plus humanitaires, disons ça comme ça. Louise Henry, ex-incarcérée de la prison Leclerc, auteur de ce livre-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous vous souvenez, il y a quelques années au Québec, il y avait eu toute une controverse autour du burkini, ce maillot appelons-le un maillot respectant les préceptes islamistes vraiment très 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 stricts, pour ne pas dire radicaux. Eh ben chaque année aussi, il y a une controverse en France autour du burkini. On va parler de tout ça avec Rachel Binas, elle est journaliste indépendante en France. Vous l'entendez régulièrement sur les ondes de Cube. Vous pouvez aussi la lire dans les magazines français Marianne et L'Express. Rachel, bonjour.
Bonjour.
On a l'impression que ça revient avec le beau temps. Dès qu'il commence à faire soleil en France, il y a une controverse autour du burkini. Mais cette fois-ci, c'est pas dans les villes du Sud. En fait, c'est à Grenoble. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble?
En effet, c'est notre marronnier estival en France depuis 2016 environ. Ça s'était exprimé d'abord sur les plages, hein, notamment les plages corses, où les Corses avaient réagi de manière très virulente à la présence d'une femme en burkini sur leur plage. Et donc depuis 2016, c'est devenu une espèce de sujet à la fois social et politique. On a le droit à la polémique. Là, c'est il y a quelques jours, le maire de Grenoble, Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts, donc écolo, s'est déclaré en faveur d'une modification des règlements des piscines municipales pour autoriser notamment le port du burkini. Donc il répond là à des demandes hein, de militants depuis plusieurs années. Il y a d'ailleurs eu un appel qui a été signé par 107 associations issues de toute la France, comme les hijabeuses, comme les clitoris sonores. Oui, ce sont les noms de ces associations.
Et là là, d'accord.
Oui, coordination féministe antifasciste. Et il y a répondu en publiant lui-même une lettre.
Alors, c'est assez particulier parce que, donc, il faut peut-être commencer par le début. Pourquoi est-ce que le burkini était interdit dans les piscines à Grenoble et dans d'autres villes en France?
Alors, on va dire que l'argument qui est souvent utilisé, c'est celui de l'hygiène. Vous devez avoir une tenue. Alors, par exemple, les caleçons sont interdits dans les piscines en France. Et ces combinaisons-là le sont également. Alors, c'est vécu par certains comme une discrimination, une standardisation sexiste et raciste. Je cite l'appel d'un collectif féministe imposé par le règlement. Donc, ils ne veulent plus que l'accès aux piscines soit conditionné par la longueur des maillots de bain qui ne respecteraient pas des exigences d'hygiène et de sécurité. C'est souvent les arguments justement qui sont mis en avant. Mais en réalité, derrière ça, c'est une espèce de combat culturel, social qui est mené. D'ailleurs, Éric Piolle, quand il a publié sa lettre était intitulée, en toute logique, vous me direz, « Pour la garantie de notre mode de vie à la française ».
Ah oui? Oui, c'est bizarre, oui. C'est un petit peu contradictoire. Ouais.
C'est complètement contradictoire parce que nous sommes en France, ce qui signifie qu'on a une culture, une identité particulière qui est le fruit de notre histoire, de nos conquêtes sociales. Et la question du burkini, elle renvoie directement à la vision de la femme.
Oui.
Là, même la piscine municipale n'est plus un lieu de neutralité religieuse.
Oui, mais c'est parce qu'il faut le mentionner, parce que, bon, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais quand on pense à la France et à ses rapports au maillot de bain, on pense bien plus à Brigitte Bardot dans un petit maillot rikiki avec un motif Vichy, ou carrément les femmes avec les seins nus sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plages en France. C'est plus cette image-là que ça évoque, le mode de vie à la française.
Exactement, et là on est face à une pudeur qui en réalité confine au renoncement du corps, puisqu'il doit être invisibilisé. D'ailleurs, si on pousse la logique, les autres femmes seraient des femmes de petite vertu. qui ne se couvre pas assez, justement. Et là, on acte la séparation des hommes et des femmes. Or, même à l'époque de l'école laïque non mixte en France, on n'allait pas jusqu'à l'invisibilisation du corps féminin. Là, oui. Cette fois-ci, c'est ça. C'est le corps est un péché par lui-même que l'on doit cacher et on va vous montrer qu'on le cache, même dans des sphères qui devraient être des sphères protégées justement de ce genre de quasiment de revendications politiques, en tout cas culturelles, religieuses, affichées.
Oui, alors on va écouter un extrait justement du maire de Grenoble qui était en entrevue à France Inter, et vous allez voir, son interaction avec la journaliste, c'est quand même assez cinglant.
Mais vous êtes pour les burkinis à la piscine ?
Et en fait, j'ai pas à être pour ou contre. Moi, je n'ai pas à regarder votre maillot.
Et donc, on peut se mettre un burkini, y a pas de souci.
Comme vous voulez, tant et si bien que vous respectiez les règles d'hygiène et de sécurité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas rentrer dans une piscine de Grenoble avec un burkini, mais vous ne pouvez pas rentrer non plus avec un maillot qui vous protège du soleil. Et en fait, je n'ai pas à savoir si votre maillot vous protège du soleil ou si vous portez des manches longues pour des raisons religieuses que je connais, que je présuppose ou que j'ignore.
Oui, il nous prend un petit peu pour des gnochons, il nous prend un petit peu pour des valises, comme on dit. Communément au Québec, parce que je veux dire, on est quand même capable de faire la différence entre quelqu'un qui veut se protéger du soleil. Pourquoi quelqu'un qui a un maillot pour se protéger du soleil le porterait à l'intérieur de la piscine municipale? Il nous prend pour des cons. Excusez-moi là, Rachel, mais...
C'est ça, il nous prend pour des bozos, ce qui est dommage parce qu'en fait on sent son malaise, c'est-à-dire que quelque part il n'assume pas, il pourrait aller jusqu'au bout, faire écho justement à ses demandes ou à ses objections quant à ce qui serait une standardisation raciste. Ben, raciste, ça justement ça fait écho à quelque chose de particulier, c'est que cette tenue elle-même, bon alors envers une race c'est un peu maladroit de leur part, mais en tout cas à la pratique d'une religion. Et il fait un petit peu l'autruche. C'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas voir ce que ça signifie. Il ôte toute signification religieuse à un habit qui l'est profondément et qui est même revendiqué par
politique.
Celle qui le porte.
Oui, mais religieux et politique. Oui.
Bien sûr, c'est une certaine vision du corps.
Voilà, et c'est important de le mentionner parce que, bon, si vous n'avez pas vu récemment à quoi ressemble un burkini, donc il y a comme un hijab intégré, donc les cheveux sont complètement couverts, le cou est couvert, les bras... sont couverts, les jambes sont recouvertes au complet, les seuls morceaux de chair qu'on aperçoit sont les mains en partie, le visage en partie et les pieds en partie, et c'est tout. Donc et en plus il est pas moulant, plus il est ample, plus mieux c'est, parce qu'il faut pas reconnaître les formes du corps féminin. Et je m'excuse de faire un parallèle peut-être boiteux, mais en fin de semaine quand même, en Afghanistan, les talibans ont annoncé que dorénavant, le hijab ne serait pas suffisant et que la burqa était obligatoire pour les femmes en Afghanistan. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître les femmes de l'espace public. On ne voit plus les femmes. Et le burkini, à mon sens, fait exactement la même chose, fait disparaître le corps des femmes.
C'est exactement ça, et notons d'ailleurs que en Afghanistan, on a même conseillé aux femmes d'éviter de sortir
sauf si qu'elles
ne pouvaient pas faire autrement.
Voilà,
donc on les met dans l'espace public, et donc on les met et on n'accepte pas leur présence au nom, encore une fois, du corps.
Oui, et c'est la raison pour laquelle je mentionne ça, Rachel, c'est que c'est quand même assez particulier que les féministes qui normalement devraient hurler quand on parle en Afghanistan de voiler complètement le corps des femmes, quand elles sont en France, ces mêmes féministes défendent le fait de voiler le corps des femmes dans les piscines. C'est quand même une contradiction qui valait la peine d'être soulignée. Parlons justement des droits des femmes. La position de certains juges de la Cour suprême aux États-Unis, on le sait, cette fuite révélée par le journal Politico sur la Cour suprême qui s'apprêterait donc à revenir en arrière sur le jugement Roe versus Wade, ça a bien sûr fait parler partout à travers le monde. Au Canada, ici, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et en France aussi, c'est assez particulier parce que quand même, il y a certains pays en Europe, je pense par exemple à la Pologne, où l'avortement, à moins que ce soit un cas de viol ou un cas d'inceste, c'est bonne chance pour les femmes polonaises si elles veulent se faire avorter.
Ah oui, c'est même impossible, du moins au sein de leurs frontières, elles sont obligées de partir. La question a été aussi abordée il y a peu en Espagne et au Portugal, avec l'enjeu de la gratuité remis en question. C'est un mouvement qu'on n'avait pas forcément vu venir. Hein. Parfois, les acquis du féminisme sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'ils paraissent immuables, inaltérables. Or, voilà, on se rend compte qu'ils se révèlent extrêmement fragiles. Vous l'avez dit, aux États-Unis, et d'ailleurs le Québec a largement relayé l'information. Le site d'information Politico avait mis en avant ce document qui expliquait que la Cour suprême, justement, prévoyait de laisser chaque État libre d'interdire ou pas d'autoriser l'IVG, alors que c'est possible depuis 1973. En Pologne, d'ailleurs, puisque vous avez utilisé cet exemple, l'avortement, il a été autorisé et gratuit de 1956 à 1993. Et depuis 2020, il n'est autorisé qu'à titre exceptionnel, en cas de viol ou d'inceste. Ou s'il y a un risque pour la santé de la mère et de l'enfant. C'est en effet une régression terrible. Ceci dit, en France, tout comme au Canada et au Québec, ce droit dans nos sociétés n'est pas en danger. Du moins, c'est un autre risque qui guette. C'est-à-dire, c'est la tentation eugéniste. Ça s'illustre notamment par les avortements sélectifs, selon le sexe du fœtus. Hein. Des études d'ailleurs médicales avaient été publiées en 2016, études menées au Canada, qui mettaient en lumière un nombre anormalement élevé de petits garçons dans les familles canadiennes d'origine indienne, et ce depuis près de 20 ans.
Oui, c'est-à-dire que, juste pour préciser, pour aller dans le même sens que vous, Rachel, normalement, quand bon an, mal an, il y a à peu près 106 garçons pour 100 filles, et dans certaines communautés, donc du sud-est asiatique, c'est 260 garçons pour 100 filles. Donc, il y a théoriquement 160 petites filles en moyenne qui sont évaporées avant même de venir au monde, quoi. Je veux dire, elles sont tuées dans le ventre de leur mère parce que elles sont filles.
C'est le début d'une forme d'eugénisme. D'ailleurs, un député conservateur en 2012 avait déposé une motion aux communes pour demander aux députés de condamner l'avortement sélectif, bon, sans succès. Et si vous voulez, ce débat qui est à la fois éthique et juridique, nécessaire, il apparaît difficile, pour ne pas dire impossible, tant la question est passionnelle et confisquée par des militants de tous bords. On a d'un côté ceux, souvent religieux, qui se donnent pour mission de décider à la place des femmes, et d'autres qui estiment que le droit à l'avortement ne devrait souffrir d'aucune limite. On a ces deux excès qui se nourrissent, qui se répondent parfois. Est-ce qu'on doit choisir entre d'un côté l'interdiction d'un droit essentiel pour les femmes et de l'autre une dérive eugéniste au nom d'une liberté qui est en fait déviante? Certainement pas. Mais aujourd'hui, questionner la pratique, c'est perçu comme l'antichambre d'une remise en question du droit des femmes à l'avortement. Donc on a ces militants des deux bords qui s'alimentent dans l'indignation, et à la fin, qui paye l'addition? Encore une fois, ce sont les femmes.
Oui, absolument. Les femmes ou les petites filles à naître. Je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit de très intéressant, qui m'avait échappé personnellement. Vous avez dit que au Portugal et en Espagne, donc ce qu'on a remis ou ce qu'on remet en question, c'est la gratuité de l'avortement. Parce que quand les féministes se battent pour l'avortement, c'est pas juste pour l'accès à l'avortement, c'est qu'il faut qu'il soit libre et gratuit. Et si on remet en question la gratuité, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, Rachel, parce que, en effet, si on a 16 ans, 17 ans, ou même si on est mère de famille monoparentale, et que on doit débourser des sommes importantes pour se faire avorter, ben, on le fait pas, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, le fait que ce soit gratuit, c'est un enjeu qui est absolument énorme.
Bien sûr, et puis c'est une manière, en réalité, de faire en sorte que le chemin soit semé d'embûches pour ces femmes. Ou alors d'expliquer que seules celles qui ont les moyens pourront le faire, et tant pis pour les autres. Parce que d'ailleurs, même quand ce droit-là n'en était pas un, les femmes les plus fortunées pouvaient aller, par exemple, en France, en Suisse ou dans d'autres pays, pour se faire avorter.
Oui, c'est important quand on parle du combat pour ce que vous appelez en France l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, de rappeler une femme exceptionnelle, Simone Veil, qui donc, alors qu'elle était ministre de la Santé, et là, rappelez-moi, est-ce que c'était Giscard d'Estaing? Est-ce que c'était... la mémoire me fait défaut, mais peu importe, donc, elle avait fait ce fameux discours. Allez-y, Rachel.
Oui, c'était sous la présidence de Giscard d'Estaing, tout à fait.
De Giscard d'Estaing.
En 75.
Voilà. Et donc, elle avait fait ce fameux discours à l'Assemblée nationale où elle avait souligné que ce n'était jamais de gaieté de cœur qu'une femme le faisait, avait recours à l'avortement, mais que c'était important de légiférer et de rendre ça légal. Et c'est important de rappeler qu'en France, contrairement au Canada, où il n'y a aucune limite, en France, il y a des balises. Je pense que c'est 12 ou 16 semaines, je ne me souviens plus. 14, mais,
ou 14, 14 ou 16, selon la manière dont on compte. Oui, mais 14, oui.
D'accord. Donc, mais c'est important de le rappeler pour les gens qui nous écoutent au Québec, au Canada, parce qu'on oublie ça. On se dit, ah ben oui, le droit à l'avortement est pareil partout. Ben non, dans des pays qui sont pourtant pas des pays fascistes ni des pays rétrogrades, en France, ben il y a une limite. À partir d'un certain nombre de semaines, on peut plus se faire avorter. Rachel, merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous à toutes ces questions-là. Et bonne bégane, que ce soit avec ou sans burkini, pour toutes les femmes de France, parce que je pense qu'il fait assez beau chez vous. Oui, c'est ça.
Ça me va mal.
Merci beaucoup, Rachel. Je rappelle que vous êtes donc chroniqueuse ici à Cube Radio, journaliste indépendante en France, entre autres pour Marianne et l'Express. Merci, Rachel. Passez une bonne fin de semaine.
Bonne semaine.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Samedi dernier, il y a eu une manifestation pour demander l'abolition des électrochocs en psychiatrie. Quand il y a des textes qui ont commencé à circuler dans les médias pour parler de cette manifestation-là et des différents organisateurs qui ont été interviewés dans les médias, il y a un certain nombre de psychiatres sur les médias sociaux qui sont intervenus en disant « Wow, 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 attention deux secondes, là on est en train de créer un faux débat, les électrochocs, ça fonctionne, il faut arrêter de démoniser les électrochocs ». Donc je me suis dit « Voilà l'occasion de faire un débat intéressant, voici l'occasion vraiment de faire la lumière sur cette façon de traiter les gens en psychiatrie ». C'est ce qu'on va faire avec le docteur Maxime Dussault-Laurando, qui est psychiatre à l'hôpital Charles Lemoine. Docteur Dussault-Laurando, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour la plupart des gens, et je m'inclus là-dedans, l'image qu'on a des électrochocs, c'est dans différents films où on voit des gens avec des électrodes dans la tête, des traitements absolument épouvantables, ou alors on pense à ce qui s'est passé ici à l'Institut Allen Memorial, des études sur les électrochocs financées par la CIA. Ça ressemble à quoi des électrochocs en 2022? En psychiatrie?
Oui, ben effectivement, hein, ce que vous décrivez est tout à fait vrai. Il y a donc des images dans les films, dans les médias qui nous ont qui ont choqué peut-être beaucoup et effectivement donc qui dépeignent un tableau qui est très différent de la réalité en 2022 quand on regarde comment ça se pratique les électrochocs. Donc effectivement, donc c'est un traitement qui est très sécuritaire et qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les films, en fait, dans le sens où c'est fait dans des conditions qui sont très contrôlées, donc avec une équipe qui inclut donc l'anesthésiste. C'est fait donc sous anesthésie générale. Le patient donc n'a pas conscience là, du traitement. En fait, c'est un traitement qui consiste à administrer un courant électrique de très faible intensité, mais qui pour déclencher une convulsion. Donc comme une crise d'épilepsie, si on veut.
D'accord.
Mais donc, c'est cette convulsion qui est le traitement, en fait, qui va amener donc une amélioration des symptômes et éventuellement donc une rémission. C'est un traitement qui est très efficace, en fait, et donc qui s'adresse surtout à des dépressions, à des troubles affectifs, troubles dépressifs qui sont sévères. Donc, c'est en quantité là, un assez faible nombre de patients qui peuvent bénéficier de ce genre de traitement-là. Mais donc, comme je le disais, c'est très efficace. Et il y a certains patients donc qui ont absolument besoin là, de ces traitements-là, qui ne répondent pas aux traitements plus ordinaires comme la psychothérapie ou les médicaments. Donc c'est des traitements qui sont parfois nécessaires, mais qui sont, comme je le disais, assez rares.
D'accord, assez rare, mais efficace et fait sous contrôle évidemment médical. Vous nous avez parlé d'anesthésie générale. Pourquoi, comment expliquez-vous qu'il y ait donc cet organisme par choc qui disent que les électrochocs doivent être abolis et une des sous disons revendications, c'est de dire ben il est utilisé l'électrochoc de façon disproportionnée sur des femmes. C'est une preuve de discrimination, c'est du sexisme. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
Ben, en fait, il faut voir un peu comment on interprète effectivement, c'est vrai que les électrochocs sont donnés en proportion plus importante à des femmes puis à des personnes plus âgées. Donc, effectivement, c'est le reflet, par contre, de la prévalence plus élevée des troubles qui répondent ou des indications des ECT dans ces groupes-là, dans le fond. Donc,
je comprends que vous nous dites si on utilise les électrochocs pour des cas de dépression sévère, s'il y a plus de femmes que d'hommes et plus de femmes âgées que d'hommes âgés qui font des dépressions sévères, c'est normal qu'il y ait plus de femmes âgées qui reçoivent des électrochocs. Ça me paraît mathématiquement assez solide comme argument.
Exactement. Puis il faut voir que quand même, là, le Québec se compare de façon... c'est-à-dire que l'utilisation des ECT au Québec est assez, ou de la sismothérapie est assez similaire à ce qu'on trouve dans les autres pays industrialisés. Donc, il n'y a pas une utilisation qui est démesurée au Québec par rapport à ailleurs. Puis, en fait, ce que je dirais, c'est que même parfois, donc, on voit qu'il y a une disparité entre les régions, hein, qu'il y a des régions D'accord. où c'est plus accessible que d'autres. Donc, un des enjeux, c'est l'accès, en fait, parce que c'est un traitement qui, comme je le disais, qui est parfois requis et qui sauve des vies, là, carrément. Puis il y a des gens qui en ont besoin. Donc, peut-être un des défis qu'on a, c'est d'avoir peut-être une plus grande accessibilité, une uniformité de l'accessibilité sur le territoire québécois. Par contre, effectivement, je pense pas que qu'on peut inférer là, du fait que les femmes âgées, par exemple, en reçoivent plus, qu'on peut inférer autre chose que ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est-à-dire que c'est le reflet de l'incidence plus grande dans cette population-là, des troubles qu'on traite avec ce traitement-là.
D'accord. Alors, il y a quelque chose... Oui, excusez-moi, il y a quelque chose de très particulier par cet organisme-là, Pare-Choc, donc qui est contre, qui demande l'abolition des électrochocs en traitement psychiatrique. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des cas où ce traitement est donné contre la volonté du patient et que dans certains cas, dans plusieurs cas, les patients n'ont pas eu le droit à donner leur consentement libre et éclairé. C'est quoi la réalité sur le terrain?
Dans les faits, le consentement libre et éclairé est primordial pour les ECT, comme c'est le cas pour l'ensemble des soins médicaux au Québec. Hein. Le consentement libre et éclairé, c'est fondamental.
C'est la base?
C'est la base. C'est protégé, évidemment, par le Code civil, par la charte, en fait. Et donc, c'est effectivement, il y a des situations exceptionnel, rare, où des personnes inaptes vont faire l'objet d'ordonnances des tribunaux par rapport à des traitements. Et comme je le mentionnais dans le cas des ECT, c'est rarissime ce genre de situation-là. C'est le cas pour différents traitements. Là. On peut penser, par exemple, à des personnes Alzheimer qui vont avoir besoin d'un hébergement. Il faut que les tribunaux se penchent quand les gens sont inaptes et refusent certains soins comme un hébergement ou des médicaments qui sont requis pour la santé de la personne, etc. C'est des situations qui sont exceptionnelles et qui doivent le demeurer, mais de façon générale, effectivement, donc à moins de l'intervention d'un tribunal, donc dans ce cas-ci, on parlerait de la Cour supérieure, mais il est tout à fait impossible et immoral de donner de toute façon un traitement à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement libre et éclairé. On parle ici, dans le cas particulier des ECT, il y a un consentement écrit qui est assez...
Ah oui?
Oui, un consentement écrit à l'anesthésie, un consentement écrit ou à la procédure. Donc le patient, donc il y a une brochure qui est produite par le ministère de la Santé qui fournit beaucoup d'informations. Donc on porte une attention vraiment particulière à ça, effectivement, en étant conscient effectivement qu'il y a une image quand même dans la société qui vient peut-être du cinéma, qui vient peut-être d'une histoire ancienne qui n'a pas toujours été glorieuse, effectivement. Je pense qu'il faut le reconnaître. Il peut y avoir des traumatismes anciens qui persistent là, dans l'imaginaire collectif. Je pense qu'il faut reconnaître ça, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. C'est un traitement qui est requis souvent, comme je le mentionnais, puis qui sauve des vies, qui est important, auquel on doit donner accès. Et donc, malgré ces traumatismes peut-être dans l'imaginaire collectif, d'un côté, et dans un contexte où, effectivement, dans nos valeurs sociales d'aujourd'hui, bien, c'est clair que le consentement libre et éclairé est fondamental. Donc, mais je comprends qu'il y a peut-être effectivement donc quelque chose qui vient pas nécessairement de la réalité de ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ce traitement-là, puis sa réalité d'aujourd'hui, mais peut-être effectivement des choses qui sont un peu historiques dans le fait que on a une image qui est plutôt négative de ça. Donc,
est-ce qu'il y a des dangers?
Il faut faire la part des choses.
Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à l'utilisation des électrochocs en psychiatrie?
Comme tout traitement médical, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires, il y a des dangers. Donc, quand on parle de consentement libre et éclairé, c'est des choses dont il est absolument essentiel de discuter là, avec tout patient. Qui va recevoir qui est éligible à un traitement de cimothérapie. Donc, il y a des risques qui sont reliés. Donc, comme toute anesthésie générale, en fait, il y a un risque qui est quand même très, très mince, mais qui existe quand même là, d'à peu près 1, 2 sur 100 000 de décès éventuellement là, en lien avec l'anesthésie. Là, tu sais, donc, ça, c'est des choses qu'il faut effectivement expliquer. Puis sinon, ben c'est assez bien toléré. Je vous dirais, l'autre enjeu majeur, ça va être des troubles de mémoire.
Ah oui.
Qui sont, dans la vaste majorité des cas, réversibles. Et mais donc c'est sûr que ça peut être un enjeu. Donc ça aussi, il faut en parler. Donc, des troubles de mémoire, donc comme je le disais, qui sont généralement réversibles, qui tendent vraiment à s'améliorer avec le temps.
Et à ce moment-là, ça devient une question de coût-bénéfice, c'est-à-dire que est-ce que les effets secondaires potentiels et réversibles sont plus importants ou nous handicapent plus que le mal lui-même? C'est-à-dire, si on souffre de dépression sévère, peut-être qu'on est prêt à troquer ça contre une perte momentanée de mémoire pour ne plus avoir à souffrir, parce qu'une dépression sévère, c'est débilitant, là, c'est absolument épouvantable, donc on comprend fort bien. Docteur Dussault-Laurendeau, quand vous avez vu passer ce texte-là, enfin, en ce cas-ci, c'était un texte de la presse canadienne, où on parlait de cette manifestation-là, on donnait la parole aux organisateurs de la manifestation et aux différents groupes de femmes, mais on donnait pas la parole à un psychiatre, on donnait pas la parole à quelqu'un qui présentait l'autre point de vue. C'est pas un peu choquant? C'est-à-dire que c'est normalement une information équilibrée si on donne les deux points de vue. Est-ce que ça vous a choqué?
Ben c'est sûr que je
déçu.
Ben un peu effectivement, parce que c'est sûr que sans vouloir parler de d'une situation particulière, c'est sûr qu'on s'attend à ce que quand on aborde des enjeux importants qui touchent à la santé, je prends l'exemple par exemple de la pandémie qui nous afflige depuis 2 ans, ben effectivement, je pense que il y a eu beaucoup d'informations médicales dans les médias. Je pense que c'est important de garder de saines habitudes, d'aller à des sources qui scientifiques quand on traite de choses médicales. Donc, simplement pour dire, il y a beaucoup d'informations même disponibles en ligne. Hein. Il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui s'est penché sur l'utilisation des ECT au Québec. Donc, une étude en particulier de l'INSPQ qui est disponible sur Internet, la brochure même du ministère de la Santé qui traite des ECT. Donc, ça, c'est facilement, tout est accessible. Donc, c'est sûr que effectivement, je pense que c'est important de donner les deux côtés de la médaille. Puis je pense que dans le cas où on parle de soins de santé, ben l'information scientifique, hein, on peut pas vraiment faire l'économie, je pense que c'est fondamental d'aborder cet angle-là aussi. Là.
C'est-à-dire qu'en fait, même, je dirais, au-delà de même donner, quand on dit les deux côtés de la médaille, dans ce cas-ci, ben, il y a le côté de la médaille qui est la réalité scientifique. C'est comme si on disait dans les vaccins, il faut donner les deux côtés de la médaille. Les gens qui disent que ça vous fait pousser un troisième bras dans le front, ben, je m'excuse, mais non. Il y a la réalité du vaccin, puis moi, je suis pas prête à dire que donner la parole aux gens qui disent que ça fait pousser un troisième bras dans le front, ça donne une information équilibrée. Au contraire, c'est une information déséquilibrée. C'est pour ça que c'était important de vous parler aujourd'hui, docteur Maxime Dussault-Laurendeau. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Charles Lemoine. Merci d'avoir remis les pendules à l'heure en ce qui a trait aux électrochocs et surtout de défaire tous ces mythes qui ont été véhiculés quand même par que ce soit le cinéma, les émissions de télé. C'est assez particulier. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Merci de vous intéresser à tout ça. Merci.
Oui, ce sont des questions quand même assez intéressantes. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que l'émission va se terminer. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, la réalisation. C'est Florence Lamoureux, encore cette semaine, qui assure la recherche. Merci à vous d'avoir choisi Cube. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se retrouve évidemment demain.
Cube Radio.